Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Si l'on en croit les sondages, beaucoup de Français seraient prêts à changer de vie pour tenir compte des questions environnementales, à se réapproprier des terres, celles de l'habitat, de la santé, de l'alimentation et à retrouver un rôle actif de citoyen. En un mot, à se mettre en marche. Vivre mieux et de façon plus durable, c'est donc possible. Chaque citoyen pourrait décider de vivre une toute autre existence, écologique et solidaire, être le vecteur ou le fer de lance d'un changement de base, en coalisant autour de lui d'autres énergies. Quel est le terreau où poussent ces graines du changement? Quelle est la quête de ces acteurs du théâtre écologique et environnemental? Que pèse-t-il au regard de l'évolution des sociétés? Réponse est plongée aujourd'hui sur France Culture dans ce monde du possible et du participatif avec Pascal Derme. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et auteur du livre « Ils l'ont fait et ça marche, comment l'écologie change déjà la France ?» Un livre paru aux éditions Les Petits Matins. Et à vos côtés, Maxime de Rostolan, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur, directeur de l'association Ferme d'Avenir, ferme spécialisée en permaculture et agroécologie. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, en partenariat avec le service Planète Science du Monde, les échos de la Terre seront l'occasion pour nous d'interroger nos habitudes énergétiques suite aux recommandations données en début de semaine pour moins consommer d'électricité en pleine vague de froid. Et nous serons en compagnie de Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Gestes citoyens, économie solidaire et responsable, eh bien c'est le sujet du jour. Dans notre émission préparée par Catherine Donnet et Lucille Valérie, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Valérie Lavalard. Bonjour à tous, bienvenue.
Pour sauver la planète, il y a désormais une application pour ça sur votre smartphone. C'est l'idée qu'a eue Elliot. Il a créé 90 jours, l'application qui va vous transformer en éco-citoyen.
Donc j'ai imaginé un assistant personnel de transition écolo, ça s'appelle 90 jours, c'est une appli mobile gratuite qu'on a sur notre téléphone et qui va nous proposer des défis. C'est pas simplement des gestes, pas simplement des éco-gestes, l'idée c'est de commencer par un questionnaire pour imaginer un premier pas sur mesure, celui que vous allez avoir le plus de chances de réussir, parce que le but c'est de vous dire bravo très rapidement et de vous donner envie de continuer et d'entrer dans une sorte de réaction en chaîne, et ensuite que vous soyez autonome, que vous n'ayez plus besoin de l'appli, et que vous ayez conscience de votre impact environnemental et de ce que vous pouvez changer dans votre vie quotidienne. Apprendre à trier ses déchets.
Apprendre à trier ses déchets, bien d'autres défis à relever. Elliot Lepers, donc concepteur de cette appli. Maxime de Rostolan, en écoutant ce document qui était passé sur France 3 Île-de-France le 12 décembre 2016, vous avez réagi aussitôt.
C'est un petit monde quand même. On est tous très engagés et on se connaît quand même pas mal. Ça fait pas mal de temps qu'on évolue dans les mêmes mondes et Elliot est effectivement quelqu'un que je connais bien, ouais.
Et donc cette appli, finalement, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut toucher des personnes? Ça peut jouer son rôle, ça?
Je pense que toutes les petites gouttes contribuent à alimenter la rivière dont on a besoin vraiment de voir l'émergence dans les années qui viennent. Et ouais, bien sûr, ça fait partie de tout ça. Et il faut essayer de contenter tous les styles. Et l'appli est quelque chose qui est important. On sait que les jeunes sont vachement là-dessus. J'ai d'ailleurs découvert une appli que aucun adulte ne connaît hier. On parle de Cartable. Non, bah voilà, c'est tous les lycéens sont sur l'appli Cartable. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de monde. Et je pense que la difficulté, en tout cas le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de réconcilier tous ces mondes parce qu'il y a plein de microcosmes et il faut réussir à faire masse, quoi.
Pascal Derme, une petite réaction. Alors je précise que justement, être éco-citoyen dans une transition écologique en cours, hein, c'est ce que vous avez étudié depuis des années et à la rencontre finalement de ces énergies de la société civile.
Tout à fait, c'est écologie du réel. En fait, les sciences sociales montrent qu'il n'est pas besoin d'attendre et d'attendre pour avoir assez d'arguments pour se mettre à agir. En fait, agir donne du sens à ce qu'on fait, d'une certaine façon. Donc cette application, elle est intéressante aussi parce que ça va inciter, je dis pas obliger, inciter les gens à se prendre en main, à faire des petits gestes. Et en même temps, en agissant, ils vont trouver un sens et sans doute du bien-être et aussi des intérêts, sans doute un intérêt financier et peut-être un sens plus général ensuite. Il y a une progressivité dans ces actions. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les territoires où j'ai été observer le changement en cours, de cette réappropriation à la fois de l'espace, de son temps, de ses voisins et du sens de sa vie. dans les territoires où j'étais, c'est que justement aussi ça change le regard que l'on peut porter sur les autres, sur soi, et donc ça va au-delà des éco-gestes et au-delà de manger, de bien manger, de nourrir, de se chauffer, qui sont des besoins importants bien sûr.
Alors, observer cette alternative écologique et sociale en cours et puis locale, mettre en place cette économie sociale et solidaire, donc vous avez observé, vous avez commencé ce travail il y a combien de temps ?
Depuis 20 ans.
Donc ça existe depuis longtemps ?
Alors ça existe pas sous la même forme. Vous savez bien que cette représentation de l'environnement, de la place de l'homme et de l'environnement, ça a beaucoup évolué en 20 ans, donc on va pas faire ici un historique. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, au moment momentum, c'est-à-dire cette envie qu'ont les gens de se réapproprier finalement leur alimentation, Maxime, leur énergie aussi. Il y a tout un tas d'exemples, leur politique même, si on peut aller jusque-là. Et puis leur espace, ça, je dirais que ça a 4-5 ans. Ça accompagne le désenchantement aussi et le manque de confiance qu'on peut avoir dans les autres sphères. Et donc, il y a un retour sur soi. Cette écologie participative, elle est aussi participer soi, avec soi-même, à ce changement. Donc, ça entraîne tout un tas de questions aussi, qui on est, quel sens on peut donner à tout ça.
On va prendre la mesure justement de un petit peu de cette cartographie, même ou de la masse, parce que ces acteurs d'une écologie participative finissent par se multiplier au fil des années et par former aussi un pouvoir. Et on n'en a pas encore conscience, mais on sent bien que c'est là et que c'est en train de prendre. Alors, Maxime de Rostelan, vous, votre propre démarche, c'est intéressant, hein, parce que vous êtes urbain, hein, parisien d'origine, diplômé scientifique, hein, Mathsup, Mathsup, etc., et des grandes écoles. Et finalement, c'est ce rapport à la terre, à l'environnement, au vivant, qui a fait que vous avez vraiment basculé du côté du terroir, quoi, si je peux dire.
Ouais. En fait, moi, je suis arrivé au développement durable de manière assez classique. Je pense qu'il y a énormément d'élèves d'écoles, d'ingénieurs ou de commerce qui veulent entrer dans le développement durable. Donc, j'ai d'abord fait un tour du monde pendant 2 ans, rencontre des problématiques locales de l'eau. Et donc là, c'est vraiment un premier jalon dans la construction et dans la prise de conscience personnelle. En 2007, j'ai rencontré donc le prince jardinier, Louis-Albert de Breuil, qui est le propriétaire de la maison Dérolle, et avec lequel on a monté une collection de planches pédagogiques sur le développement durable. Et en fait, on a réalisé près de 200 planches illustrées sur tous les sujets, que ce soit le microcrédit, la biodiversité en ville, le cycle des déchets ou que sais-je. Et on discutait pour cela avec des directeurs développement durable d'entreprise. Et j'étais un petit peu frustré de voir le peu de marge de manœuvre au final dont disposaient ces directeurs développement durable. Et j'étais un petit peu déprimé. Et c'est là que j'ai découvert le vivant et notamment le biomimétisme. Mmh. Et donc le biomimétisme, donc l'idée c'est juste de s'inspirer de la nature qui a développé des technologies qui sont absolument incroyables, qu'on est infoutu de comprendre d'ailleurs.
En s'adaptant au changement climatique historique.
Tout à fait. Et donc il faut préciser que ces technologies sont, donc elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil. Elles ne savent pas produire de déchets et elles sont résilientes. C'est vraiment les trois attributs, les trois forces de ces technologies qui sont exactement
le contraire de ce que nous on fait.
Ce que nous on fait. Et du biomimétisme, je suis arrivé à la permaculture par la lecture d'un livre que je conseille à tout le monde, qui est un livre qui s'appelle juste Biomimétisme de Janine Benyus. Mmh. Et en fait, elle consacre le premier chapitre de son livre à l'agriculture. Et c'est le plus gros des chapitres. Et elle clôt ce chapitre en disant que si on est réellement convaincu qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut changer de modèle, alors la première brique, le socle sur lequel on doit faire reposer ce nouveau monde, c'est l'agriculture, l'alimentation. Et c'est là que j'ai commencé à creuser et j'ai fini par quitter Paris pour monter une ferme. Ouais.
Donc pour monter cette ferme de la Bourdaisière, c'est ça ? Enfin, en tout cas sur ce territoire de Louis-Albert de Breuil. Et une ferme laboratoire tout d'abord sur 1,5 hectare.
Ouais.
Et en même temps, qui a SME, qui fait des petits, il y a combien de fermes aujourd'hui ? Rattachées à l'association, alors, parce que c'est devenu aussi une association.
Ferme d'avenir, c'est un écosystème, donc c'est un écosystème qui fait pas mal de choses. On fait de la R&D, de la recherche, avec cette ferme notamment. On fait de la création de nouvelles fermes, donc là on est en train de créer 3 petites fermes un peu partout en Ile-de-France et une grande ferme de 70 hectares qu'on va bientôt mettre en place. Mais on a aussi organisé des concours pour récompenser des fermes. L'idée c'est... Il y avait un article dans Télérama qui disait FNSEA, monoculture intensive au JT. On ne parle que des agriculteurs qui mettent des bonnets rouges quand on leur demande d'adopter des pratiques plus écologiques. On parle que de ceux qui balancent du fumier devant les préfectures. C'est un peu pénible, un peu anxiogène et je pense que ça donne pas forcément une bonne image des agriculteurs. Et on a voulu braquer les projecteurs sur ces agriculteurs d'avenir qui sont fiers de ce qu'ils font, qui travaillent avec leur terroir, avec la nature et pas contre elle, et qui au final ont pas du tout envie de changer de pratique parce qu'ils savent qu'ils vivent mieux ainsi. Et donc on a fait ces concours. Et pour répondre à votre question, là, on remet mardi 45 chèques à 45 fermes qui ont gagné ces concours cette année. Donc, on est un réseau d'une centaine, 100, 150 fermes.
Alors, partons à la rencontre d'une de ces fermes d'avenir, justement, sujet tourné pour France 3 édition nationale, diffusé le 17 octobre 2015. On part à Avranches.
Ce serait donc une ferme d'avenir, une exploitation modèle, pourtant bien loin des canons productivistes de l'époque.
Tout le troupeau est là, il est petit, donc on a 33 chèvres laitières. En fait, on a un troupeau qui est dimensionné à nos terres et au fourrage qu'on peut produire pour les nourrir et pour faire du lait.
Tout repose sur ce principe. La ferme du Petit Changeon est autonome. Les chèvres mangent l'herbe, les ronces et le foin de la ferme, et le lait est transformé sur place. L'autre credo, c'est la vente directe pour supprimer les intermédiaires. Les fromages sont vendus sur les marchés et dans les restaurants. La ferme produit aussi de la charcuterie, de la viande et bientôt du pain. Et avec seulement 2 hectares de blé, la ferme est autonome.
Ça permettra, avec la farine qu'on a, de tenir l'année sur 120 kilos. En fait, on est parti sur 120 kilos par semaine, plus les brioches. Ça fait en moyenne de farine, on utilise une centaine de kilos de farine par semaine pour la boulangerie.
Peu de charges, pas d'emprunt bancaire et des produits vendus en direct. La ferme est rentable. Elle fait vivre 4 personnes avec seulement 18 hectares de terre.
Si le pétrole y monte, si les banques, je ne sais pas quoi, si l'agro-business, je ne sais pas quoi, veut diviser le prix par 2, etc., nous, on n'est pas touchés. Donc nous, demain, après-demain, on est encore là, on sera toujours là. Parce qu'on est, on est avant tout autonome et imaginatif, on diversifie, on va jusqu'au bout de notre démarche.
Voilà, un monde plus bio, semer le changement dans les campagnes avec des micro-fermes et en prouvant que l'agroécologie est rentable et vertueuse, finalement, en étant en quête quand même de quelque chose. Alors, en quête de quoi, finalement, Pascal Derme ?
En quête d'une implication. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il y a une quête individuelle et collective. Et là où ça fonctionne, que ce soit en matière d'économie d'énergie, d'urbanisme durable, d'alimentation en circuit court.
Oui, parce que là, vous citez dans le livre, les jardins partagés, les éco-hameaux, les villes zéro pesticides, les habitats collectifs, les villes lentes, les pépinières d'entreprise, les cantines bio, etc., etc., et les fermes d'avenir. C'est vrai que la liste est longue de tous ces lieux spécifiques, mais qui font la vie d'une manière générale.
Voilà, exactement. Et quand ça fonctionne dans ces lieux, c'est qu'il y a une coïncidence entre des besoins individuels de se chauffer, de se nourrir, de se loger, et des besoins collectifs d'un territoire où ces synergies peuvent se rencontrer. Un territoire qui a besoin de développer l'urbanisme durable, de faire des économies d'énergie fossile, de créer de l'emploi, de créer de l'économie, de créer du terreau. Et c'est ce terreau-là, cette rencontre entre les besoins individuels et collectifs basiques et l'ambition ou la vision d'un territoire qui crée ces synergies entre des acteurs individuels, privés, mixtes, hybrides. Et c'est ça qui se passe en ce moment et qui fonctionne.
En tout cas, des actions qui partent souvent de la base, Maxime de Rostolan, de la société civile. À un moment, il y a quelqu'un.
Je pense que les personnes qui s'engagent cherchent un impact. On sait tous que la situation ne peut pas durer comme ça. On a tous envie de changer et il me semble que, effectivement, à partir du moment où quelqu'un cherche un impact, il va s'engager corps et âme pour cela. Et c'est peut-être une des différences entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique. L'entrepreneuriat social, l'idée, c'est vraiment de répondre à un besoin. C'est pas de remplir ses poches c'est d'argent, c'est vraiment de répondre à un besoin. Et les besoins, ils sont identifiés. Il y a des gens qui mangent peu ou mal, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se chauffer. En Afrique, si jamais on veut partir sur les autres continents, il y a une précarité énergétique. Et donc, on veut avoir un impact. Et ça, dès lors qu'on se fixe un objectif et qu'on se donne les moyens d'y arriver, globalement, c'est quelque chose, c'est une dynamique qui est plutôt positive.
Et surtout que vous, dans votre domaine, en tout cas, cette terre d'agriculture, on entend souvent dire, mais les paysans, c'est fini, l'agriculture est en crise. Et en même temps, on parle de ce monde à nourrir, la planète de demain, en étant un peu effrayé et en donnant aussi le message message. Le bio, c'est pas possible. On peut pas nourrir tout le monde de façon saine. Donc, il faut ultra produire.
Ouais. Mais alors ça, c'est vraiment une folie. Il y a d'ailleurs une idée reçue qui est assez fausse et qu'on a commencé à me démonter dans mon esprit il y a quelques années. On disait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir beaucoup de monde avec peu de bras. Mais en fait, le dernier ticket de rationnement en France, c'est 48. Et la grosse période de remembrement, c'est dans les années 60. Donc c'est pas vrai. Ça n'a pas été pour nourrir les gens. Il y a eu quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on accuse effectivement l'agriculture de beaucoup de maux. Et à raison, on sait que sur le dérèglement climatique, sur la destruction de l'emploi, sur l'érosion de la biodiversité, sur les problèmes de santé, le modèle dominant est aujourd'hui responsable de pas mal de choses. Pourtant, et ça c'est une des beautés de la permaculture, on dit souvent que le problème c'est la solution, l'agriculture est le secteur qui pourrait répondre à tous ces enjeux-là. Puisque quand on parle de biodiversité, qui d'autre que l'agriculteur peut façonner le paysage et réinsérer ou régénérer la biodiversité? Qui d'autre que l'agriculteur qui produit la nourriture peut s'assurer que les citoyens sont en bonne santé? On est ce qu'on mange. Quel autre secteur que l'agriculture peut lutter contre le dérèglement climatique et donc fixer du carbone? C'est la photosynthèse. Donc
on est c'est la base.
Et on est un nœud. Il faut effectivement prendre le problème et le transformer en une solution. Et ça s'appelle l'agroécologie. Et dire que c'est pas possible de nourrir toute la population en bio, c'est faux. D'ailleurs, Olivier de Schutter, qui est rapporteur pour l'ONU sur les questions d'alimentation, a dit l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule. Et il faut juste comprendre aussi qu'on dit que l'agriculture est finie. C'est vrai, à force de s'endetter, à force de passer en hors-sol et de s'affranchir des bienfaits que la nature peut gratuitement nous fournir, l'agriculture est dans une impasse et aujourd'hui, elle n'est plus rentable. D'accord? Il faut bien comprendre que on donne 10 milliards d'euros par an pour alimenter un système. Donc c'est 1 million d'euros chaque heure qui rentrent dans l'agriculture chimique pour payer des tracteurs, des phytosanitaires, etc. Et donc pour endetter les agriculteurs qui finissent bien souvent un peu déprimés.
Donc finalement, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aide.
Tout à fait. Aujourd'hui, les aides de la PAC sont essentiellement liées à la surface. Mmh. Donc forcément, quand on a beaucoup de surface, on a beaucoup d'aide. Mais ça ne veut pas dire qu'on crée beaucoup d'emplois. J'ai été voir un agriculteur l'autre jour sur 1000 hectares en Aquitaine. Sur 1000 hectares, il a 2 salariés, c'est 2 mécanos qui réparent les tracteurs parce que les tracteurs se conduisent tout seuls. C'est juste une folie. On a quand même. Là, il faut aussi comprendre que, et ça c'est tout l'enjeu de Ferme d'Avenir, il faut absolument renouveler la population d'agriculteurs. On a 570 000 agriculteurs aujourd'hui, il y en a 170 000 qui partent à la retraite dans les 4 ans. D'accord ? Mmh. Comment se nourrit-on demain ? Je ne sais pas. Et la question, c'est de dire comment est-ce qu'on adapte, puisqu'il n'y a plus d'héritage paysan dans notre monde. Il n'y a plus personne qui... Enfin, il y a très peu de gens. Les agriculteurs représentent 2% de la population active. Donc c'est, voilà. Et donc, il faut trouver une manière d'aider les gens qui ont envie de s'engager. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est tous ces urbains qui veulent le retour à la terre. Et donc, Ferme d'Avenir essaie d'accompagner un peu ce mouvement-là. Ouais.
Pascal Derme, donc on était sur ces initiatives personnelles, à chacun son rôle, on va en parler, hein, parce qu'on parlait là des citoyens, on disait que ça venait de la base, il y a quand même aussi les élus, les politiques qui ont leur rôle à jouer, ils rentrent aussi dans la danse à travers des actions menées ou des transformations de municipalités. Donc une réaction peut-être sur ce terme-là.
Ce qui me semble intéressant, c'est cette nouvelle vision de la politique qui joue un rôle de lion, d'assemblier en fait. Et l'exemple de Strasbourg à cet égard est intéressant pour l'habitat participatif. Parce que la ville avait un enjeu d'urbanisme, c'est une ville dense et elle était en plus voisine de Freiburg en Allemagne qui pratique le cohabitat et la participation des habitants dans un urbanisme durable depuis longtemps déjà. Donc Strasbourg était imprégnée de l'expérience allemande. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont alloué 10 terrains en plein centre-ville à des projets de cohabitat comme ça, en lançant un appel d'offres en 2009. Et il y a 250 personnes qui se sont précipitées. Il y a 17 groupes de personnes qui avaient envie donc de se loger parce que ça répondait à un besoin, à une nécessité, mais aussi de construire ensemble et d'avoir un environnement et un cadre de vie urbain meilleur, avec des jardins, avec un cadre de vie plus agréable, avec des lieux en commun aussi pour partager, pour avoir des nouvelles valeurs. Et la ville a accompagné en fait cette envie-là, en offrant une maîtrise d'ouvrage, en offrant un prix préférentiel sur les terrains.
Mais parce que plus les projets étaient vertueux, moins les terrains étaient chers.
Absolument. Ouais, c'était ça. Et donc, ça a encouragé un urbanisme durable en même temps. Donc, ça a eu un rôle d'accompagnement qui me semble intéressant.
Et visiblement, ça a dû essaimer, en tout cas ailleurs. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Midi-Pyrénées le 19 février 2016, tourné dans l'éco-quartier des Maragons Floralises à Ramonville-Saint-Agne.
Portes et fenêtres condamnées, façades taguées. 40 ans après sa réalisation, la résidence Floralie devrait disparaître totalement du paysage de Ramonville. Malfaçons et contentieux ont engendré le désamour des habitants pour leur résidence. Au fil du temps, les floralies étaient devenues insalubres.
Tourner la page, oui, de manière, j'allais dire, physique, c'est-à-dire ne plus avoir cette résidence qui puisse perdurer. En même temps, il faut pouvoir conserver sur la nouvelle résidence Maragon, qui est floralie, qui est reconstruite, ce que les résidents appelaient l'âme des floralies.
Depuis un an, c'est un tout nouveau quartier qui voit le jour, avec déjà 340 logements, dont des locations-accession, des petits collectifs avec des toits-terrasses, des parties communes végétalisées. Reloger les anciens habitants, recréer des espaces pour favoriser le bien-vivre ensemble, privilégier les consultations participatives. C'est dans ce cadre qu'une chaufferie biomasse a été préférée pour la production d'eau chaude et de chauffage individuel.
Il y a un intérêt évident écologique, puisqu'on est alimenté en bois sur une filière locale, le bois venant d'un rayon inférieur à 50 km par rapport à Ramonville. Et puis c'est un système économiquement aussi intéressant, puisque le prix de l'énergie est bas.
À terme, 6000 m² seront réservés aux commerces, bureaux et services publics, de quoi redonner un second souffle au quartier des Floralies.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Finalement, ça sous-entend aussi, Pascal Derme, une vie collective qu'il faut imaginer ce vivre ensemble. On peut peut-être s'intéresser aux valeurs, aux règles qui guident tout cela, les liens aussi intergénérationnels, mais ça veut aussi dire que finalement, les personnes qui s'engagent, elles acceptent ça, de vivre en harmonie, de dialoguer. Il faut quand même un juste équilibre entre la sphère privée et la sphère publique.
Absolument, ça soulève la question des valeurs, vous avez raison. On voit émerger ces valeurs de partage, de coopération, y compris avec la nature d'ailleurs, avec le vivant. On voit émerger ces valeurs de solidarité aussi, d'entraide. Moi je crois que ça attire beaucoup de gens et ils ont une possibilité dans ces lieux-là de les mettre en pratique. Et ça ne va pas sans difficulté. Moi j'ai rencontré aussi des expériences qui avaient eu des problèmes de gouvernance. Qui décide et avec qui, à partir du moment où on est dans un cadre collectif, ça va prendre du temps pour décider.
C'est le PFH. PFH, le oui. Putain de facteur humain.
Le putain de facteur humain, Maxime, tu as raison. Donc soit, qui va décider alors, ou alors, par exemple, à Strasbourg, ils mettaient des heures et des heures à réaliser les enjeux, etc. Donc il y a un problème de temps. Il y a des problèmes de gouvernance, donc d'autorité. Donc effectivement, c'est des problèmes qui sont surmontés dans ces lieux-là, mais parfois qui incitent un certain nombre de gens à fuir et à retourner à des règles normales. Entre guillemets, normal.
Alors justement, on peut se poser la question, qui sont ces innovateurs et puis ceux qui s'engagent dans ces terrains-là, hein? C'est la méthode habitant-acteur, ça on l'a compris, faire émerger la parole citoyenne, l'expertise citoyenne, tout le monde est impliqué. Mais on a le sentiment que peut-être que pour l'instant, ça reste encore un petit peu ou dans un entre-soi. Est-ce que finalement, ça diffuse dans les strates sociales, Pascal Derme?
Alors, la question n'est pas tant de savoir qui agit et qui, mais qui avec qui. C'est ce qui me semble intéressant, c'est qui agit avec qui? Qui se retrouve autour de ces projets, sur des lieux précis, parce que ça aide aussi d'avoir une incarnation à un lieu réel et concret. Qui agit avec qui? C'est des minorités actives, c'est-à-dire c'est des groupes de personnes. C'est pas une notion très élitiste, c'est au contraire une notion très libre. C'est des personnes qui se retrouvent, elles sont irrévérencieuses parfois, elles sont contre la loi. Je pense aussi des combats un peu plus durs, des ZAD, etc. Il y a un côté irrévérencieux, il y a un côté d'intérêt commun, mutualisé, compris et assumé. Et donc, c'est des minorités qui sont légitimes parce que souvent, elles ont fait leurs preuves ou elles ont eu du temps pour faire ces preuves. Moi, les exemples que j'ai pu avoir dans les territoires, il y a parfois eu un temps de gestation qui a d'une dizaine d'années, voire 15 ans, puisque ça reste dans un cadre démocratique pour le moment et c'est très bien comme ça. Donc, il y a un temps de gestation, ce qui a permis d'avoir un capital confiance, un capital social important. Je pense à des villes comme l'Île-Saint-Denis, un territoire qui a évolué en 10-15 ans. Et ensuite, ces minorités-là, une fois qu'elles sont légitimes, une fois qu'elles sont expérimentées, elles peuvent convaincre et elles peuvent faire acte de pédagogie. Et ça, c'est le troisième point qui me paraît important. C'est-à-dire qu'elles font de la pédagogie, elles font des portes ouvertes, elles expriment, elles invitent, elles convainquent. Donc, il n'y a rien d'imposé dans cette démarche, dans ce que j'ai pu voir, en tout cas moi, sur le changement, les territoires qui changeaient. Il n'y a rien d'imposé, mais il y a une imitation, une porosité. Et ça, ça donne envie. Que ça donne envie à tout le monde, non, évidemment pas.
Alors, on imagine aussi que sans accompagnement politique sur le terrain, ce n'est pas toujours faisable. Je propose de partir direction Tramail pour comprendre cette expérience. Reportage diffusé dans l'émission Météo à la carte sur France 3 le 29 mars 2013. Et c'était à l'occasion du premier prix européen des énergies renouvelables décerné justement à cette ville.
Gramaille, en Bourgogne du Sud, un village de 1000 habitants qui vient de recevoir le premier prix européen des énergies renouvelables. La plupart des bâtiments communaux et quelques particuliers sont chauffés ici grâce à une chaufferie à bois communale.
Ben, ça chauffe très bien et puis on en est très très contents. C'est impeccable.
Une commune écolo, car ce que l'on fait brûler ici, ce sont des déchets de bois achetés à une scierie située à seulement 4 km.
C'est des déchets, c'est tous les sous-produits de scierie. Les bords, la déliniure, la croûte de bois.
Dans le bois, rien ne se perd et Julien a mis en place un circuit dans la scierie pour que les chutes de bois soient triées et déchiquetées, des déchets qui s'accumulent ici et que la commune de Tramaille rachète.
Ah ça brûle bien, ouais. Ça c'est de la plaquette, quoi. Déchiquetage, quoi. Elles sont calibrées et les plus gros morceaux font à peu près 5 cm de grosseur.
Alors voilà le bois que nous consommons. On peut avoir des morceaux qui peuvent atteindre 30 cm. Ça passe dans le système d'alimentation sans problème. Et puis en plus, au niveau de ce bois, on peut avoir un taux d'humidité qui peut monter jusqu'à 60%. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à le brûler et à produire de la chaleur avec ça.
C'est très économique puisque nous actuellement, enfin sur l'année 2012, ça nous a coûté 350 €, abonnement compris. Donc c'est carrément dérisoire pour se chauffer, quoi.
Quand on entend parler du prix du gaz, les augmentations qu'il prévoit, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance d'être chauffé grâce aux chaudières à bois.
Pascal Derme, je parlais de l'accompagnement politique nécessaire. Et là, typiquement à Tramaille, on a ce maire, Michel Maillard, qui engage finalement pour sa ville une transition énergétique avancée parce qu'il anticipe la réfraction des énergies fossiles, l'augmentation du prix de l'électricité. Et finalement, sans rien imposer par la force aux habitants, c'est ça ?
Tout à fait. Ils ont commencé par un four à pain à Tramaille, ce qui m'avait beaucoup amusé. Et ils en sont un éco-quartier. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est la progressivité, en effet, donc le temps long, 10-15 ans. Cette progressivité qui n'impose rien et qui, finalement, atterrit, on l'a vu avec votre exemple, atterrit sur des faits très réels d'économie de 10 000 € pour l'hôpital, quand même, de 15 000 litres de fuel pour cet hôpital, et pour une chaudière qui commence par concerner la mairie, l'école, et qui finalement s'étend au réseau des habitants les plus proches. Mais sans rien imposer, en plus.
C'est-à-dire ceux qui s'engagent, eux, rentrent dans le circuit et payent leur quote-part. Mais des habitants qui ne voudraient pas bénéficier de cette chaufferie, par exemple, ne payent rien du tout.
Exactement.
Donc c'est dans ce sens-là.
Et sans avoir augmenté les impôts de la commune, ça, ils y tenaient beaucoup. Donc ils ont fait un emprunt à titre privé pour ne pas imposer cet investissement d'1 million d'euros. Et donc, on voit cette progressivité, finalement, qui s'étend à tout le monde et qui est un accompagnement, en effet, démocratique et qui arrive aujourd'hui à des projets très ambitieux d'éco-quartiers et de TEPOS, puisque c'est un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, Tramaille. Donc, voilà, un succès qui est assez intéressant, qui
donc,
a pris du temps.
Un investissement de base, bien sûr, un peu lourd, qu'il faut financer. Et en même temps, après, des acquis ou des gains, on se rend compte qu'il y a de vraies économies à la clé. Maxime de Rostolan, est-ce que tout ça, ça se vérifie aussi, par exemple, dans le cadre des fermes d'avenir ?
Clairement, l'idée des externalités positives, c'est quelque chose qu'on doit se réapproprier. C'est aujourd'hui, si on parle d'agriculture, un agriculteur n'est pas là juste pour produire de la nourriture. On l'a dit plus tôt, un agriculteur peut aussi préserver la qualité de l'eau. Normalement, d'une ferme, il ne sort qu'une eau pure. Or, on voit que c'est exactement le contraire, ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui, et on doit dépolluer l'eau, les algues vertes, etc. Et en fait, je pense que ces dynamiques collectives, elles se retrouvent sur un point qui sont les biens communs, en fait. Il faut qu'on se réapproprie ces biens communs, que sont l'eau, que sont l'air, que sont la biodiversité, qui est en train de, quand même, de s'effondrer de manière dramatique. Je sais pas si vous avez vu ce chiffre,
qui est
quand
même
affolant. Ouais. Donc, on est dans la 6e extinction, qui est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes. Et, en 40 ans, on a vu disparaître 40% des animaux sauvages. Enfin, il faut juste, à un moment, se dire, on est en train de faire ça. On est la génération qui aura vu ça. Est-ce qu'on travaille là-dessus ou pas? Et là, la beauté de la chose, c'est que les solutions permettent d'enclencher un cercle vertueux. Et en proposant de réintroduire de la vie et du vivant dans l'agriculture, eh bien, on se rend compte que les rendements peuvent augmenter, qu'ils sont plus stables, qu'on crée plus d'emplois, qu'on crée plus de liens, que les zones rurales vont se repeupler. On ne sait pas si on aura besoin de tablettes ou d'avions dans 50 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de manger. Et l'agriculteur est aujourd'hui à une place qu'il ne mérite pas. Il faudrait vraiment qu'on réenclenche les choses et qu'on les remette dans le bon sens.
Dans un cercle vertueux, c'est ça.
Voilà.
Pascal Derme.
Alors, cette notion de bien commun, elle est fondamentale. Elle a été posée par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour cette notion-là, qui allait à contre-courant d'une idée à son époque, dans les années 80, qui tendait à dire que de toute façon, on n'y arriverait pas et que le capitalisme patriarcat, de toute façon, était tellement égoïste dans ses intérêts que, une fois que les eaux, les rivières, les forêts seraient éliminées, ben on ne pourrait rien faire. Alors, aller à contre-courant de cette idée dominante, ça a été sa démarche. Elle est partie sur le terrain pour aller voir comment on gérait des pêcheries, comment on gérait des ressources aquifères, comment on gérait des centres aquacoles, mais quand c'était les pêcheurs eux-mêmes qui s'occupaient de ça et qui se concertaient et qui établissaient eux-mêmes leurs règles dans leur intérêt, considérant que cette zone de forêt ou que cette zone, ce champ, ne leur appartenait pas, mais que c'était justement un bien commun. Et elle a élargi cette notion-là. Elle a eu le prix Nobel pour ça. Bien commun que sont l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les forêts, les rivières. Parce qu'après tout, c'est de ça dont on parle dans l'écologie. Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? C'est pas de la politique seulement.
Ouais. Effectivement, l'histoire des biens communs est savoir les ressources qui sont à notre disposition. On sait que chaque année, le jour où on a consommé la capacité de régénération de la biosphère, en gros, c'est en août maintenant, donc la moitié de l'année, on vit à crédit sur les générations suivantes. Et en fait, aujourd'hui, on réalise en agriculture, on n'a jamais été aussi peu efficace pour produire de la nourriture qu'aujourd'hui. C'est quand même fou. On se dit une société développée. Juste un petit chiffre. Moi, c'est celui qui m'a fait vraiment basculer dans la permaculture. En 1940, avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. On avait une transformation positive. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. Ça ne fonctionne que pour une seule raison. C'est un baril à $50. Le jour où le pétrole vaut le prix qu'il devrait valoir ou qu'il vaudra dans 100 ans, on ne sait plus se nourrir. Et donc, il faut se réapproprier ça. Et les biens communs, c'est effectivement l'eau, l'air, la biodiversité, mais c'est aussi nos propres vies. Et c'est ça, en fait, la beauté, je pense, des mouvements citoyens, c'est que cette histoire de petit colibri que Pierre Rabhi, nous a tous mis dans la tête, c'est vraiment qu'en fait, ils ne nous auront pas, quoi. On est là... On veut pas. Moi, je veux pas que mes enfants continuent à manger du poison parce que on n'a rien fait.
Et ça part d'initiative personnelle et ça gagne du terrain visiblement et avec cette notion de bien commun. Alors, bien commun. Est-ce que la musique et la chanson fait partie de bien commun? Allez, Pascal Derme, c'est votre choix. Émilie Loiseau, c'est ça? Parmi
c'est ça,
les cailloux.
J'adore.
Il y a une raison ou pas?
J'adore cette artiste. Je connais bien sa sœur qui est grand reporter et elle est très très sensibilisée à l'environnement. J'aime beaucoup.
On l'écoute.
J'avais des tresses, mais elles sont parties dans le vent. Tourne vaste monde, ma bagatelle gronde et ne faiblit pas. Roule ma monde, je fabrique une bombe avec mes dix doigts. J'habite chez vous, je m'en...
C'était Émilie Loiseau parmi les cailloux, choix de Pascal Derme. Et c'est la suite de Cause à effet, plongée sur France Culture, au cœur du théâtre de l'écologie participative et solidaire, à la rencontre de ces acteurs de terrain et ces innovateurs. Une société, en tout cas, qui se réinvente en partant d'expériences de terrain. Et nous sommes donc en compagnie, vous l'aurez compris, de Pascal Derme, journaliste et auteur du livre « Ils l'ont fait et ça marche, comment l'écologie change déjà la France », un livre paru aux éditions Les Petits Matins. Et à ses côtés, Maxime de Rostolan, ingénieur, directeur de l'association Ferme d'Avenir. Je rappelle que c'est une ferme spécialisée en permaculture et agroécologie. Ferme et association, donc SASM, SASM. Alors, on a parlé du temps long nécessaire pour que, justement, SASM, et que ça devienne, en tout cas, ce pouvoir qui est là, qui est en gestation et qui commence à peser, hein, et faire des émules. Et en même temps, il y a cette nécessité de transmettre et d'accompagner. Et ça, c'est un rôle spécifique de l'association Ferme d'Avenir, Maxime de Rostolan.
Ouais, effectivement. Le temps long. Et déjà, la formation, être maraîcher, c'est pas compliqué, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a 100 leçons, en gros. Il y en a une par an. Donc, on dit qu'on commence à être un petit peu maraîcher au bout de 5 ans. Donc, effectivement, le temps long. Et puis, la nature nous impose son rythme. Hein, ça, il faut vraiment ne pas l'oublier. Et on aurait du mal à l'oublier.
Donc, on peut venir de tous les horizons.
On peut venir de tous les horizons, faut pas commencer trop tard. On dit un maraîcher, s'il y a 40 ans, on n'est pas rentré dans le truc, on fera autre chose.
Mais les profils qui vont vers vous sont variés.
Nous, on a des candidats qui viennent de tous les horizons, ouais, effectivement. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et ensuite, sur l'aspect sensibilisation, c'est effectivement quelque chose qu'on fait, donc avec ces concours. Et cette année, on lance le premier tour de France de l'agroécologie, donc le FAT Project. C'est un projet assez ambitieux, donc le Ferme d'Avenir Tour, à la rencontre des fermiers qui envoient du lourd. C'est un petit peu le teaser. Et on va visiter plus de 100 fermes tout au long de l'été prochain. Et donc vous pouvez partir, vous pouvez venir faire 1, 2, 3, 4 étapes en famille, avec vos amis. Et donc à vélo, on va s'arrêter dans 30 villes et on sera accueillis à chaque fois par les élus locaux, parce que il est important pour nous de montrer que ce sont des dynamiques qui sont portées par les élus, par les citoyens aussi. Et donc on va faire ce tour Ferme d'Avenir et donc on sera suivi par une dizaine de journalistes qui feront des reportages à chaque fois sur les petites fermes qu'ils voient.
Et alors forcément, hein, transmettre, accompagner et puis expliquer finalement ce que vous avez monté avec Ferme d'Avenir et les objectifs. Hein, il faut rappeler que votre objectif d'ici 20 ans, c'est de créer 50 000 à 100 000 fermes pour parvenir à nourrir 30 à 60% de la population en bio local, je crois que c'est ça, et avec à la clé 200 000 emplois créés. Ferme d'Avenir existe depuis combien de temps maintenant ?
Alors nous, Ferme d'Avenir, on l'a créé en 2013. Et ces chiffres, c'est pas des chiffres qu'on a sortis du chapeau. Hein. On a mené une étude pendant un an et demi, donc avec un cabinet de conseil, et on a sorti un plaidoyer, donc qui fait 150 pages et qui évalue les externalités des agricultures. Vous l'aurez compris, externalité essentiellement négative pour un modèle dominant qui est basé sur la chimie et la mécanisation, et les externalités à contrario positives pour ce type de ferme qui vont recréer de l'emploi, créer du lien, diminuer les dépenses de santé, etc. Et donc on a croisé tout ça, donc il y a ces deux ingénieurs qui ont travaillé pendant un an et qui ont fait plusieurs scénarios. Et ce scénario, donc avec 230 000 emplois pour nourrir 30% de la population en bio local, on parle des légumes, hein, oui. Des fruits et légumes, oui. C'est le scénario qui est le plus réaliste. Et juste une petite info, hein, on importe aujourd'hui 4 milliards d'euros de fruits et légumes en France par an. D'euros de fruits et légumes et il y a 5 millions de chômeurs. Voilà, il y a une équation, elle est tout à fait, on peut la résoudre.
Donc ce sont des actions locales qui favorisent à terme une évolution globale, hein, si on vous comprend bien, Maxime de Rostolan, et donc peut-être des leçons à tirer et dont les acteurs politiques pourraient s'inspirer en cette année électorale, peut-être. On verra si d'ailleurs ce sujet, ce thème de l'environnement revient dans les débats. Pour l'instant, il est plutôt absent. Pascal Derme.
Alors moi, j'encourage chacun et chacune à aller voir ces territoires du changement. Parce que c'est la valeur de l'exemple. On est dans une écologie de l'action, comme dit Edgar Morin. Donc c'est des lieux qui se sont trompés, qui ont expérimenté. C'est une expérience. C'est une expérience à se sentir même physiquement. Moi, quand j'allais sur place, ça vibre. En fait, il émane des personnes qui changent une énergie physique qui est très positive. Et la deuxième chose, oui. C'est que je pense qu'en fait, pour transmettre, ce qui est très important, on organise avec toute une équipe à Nantes, fin mars, un événement qui s'appelle Nouveau Pouvoir. Nouveaux leaders pour justement en fait impliquer les personnes qui ont envie de changer mais qui savent pas vraiment par quoi commencer ni s'ils sont assez forts ni avec qui justement. Donc fin mars à Nantes, et ça s'appelle Nouveau Pouvoir, Nouveaux leaders, et c'est justement pour ça, c'est l'articulation entre l'écologie, le développement personnel ou la quête de sens et la politique citoyenne et la réappropriation de ces clés. Donc c'est justement dans le contexte électoral qui est le nôtre, on pense qu'en fait ça ne se décrète pas le changement, que chacun a envie ou pourrait avoir envie d'y participer, mais qu'il faut l'accompagner. Donc c'est voilà. C'est
et ça. Toutes ces informations seront bien sûr sur l'émission. Alors j'avais envie de partir aussi quand même sur les freins, parce qu'on sent que c'est là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un terreau véritablement en gestation, et puis que les choses bougent. Et en même temps, on a toujours le sentiment qu'il y a quelques freins peut-être qui empêchent de passer à la vitesse supérieure. Maxime de Rostelan.
Alors clairement, sur les sujets agricoles, la conjoncture est absolument défavorable au développement de l'agroécologie, de l'agriculture bio, etc. Parce que avec, encore une fois, un baril de pétrole qui vaut ce qu'il vaut, personne n'a intérêt à essayer d'embaucher plein de gens pour éviter d'utiliser le tracteur. Donc la conjoncture est défavorable. Mais elle n'est pas née comme ça, la conjoncture. Il faut juste comprendre qu'il y a à Bruxelles 2000 lobbyistes qui sont payés et qui sont à temps plein là-bas pour faire passer des lois qui sont favorables aux industries qui les emploient. Et donc ça, c'est quelque chose qui est clairement un frein. Et nous revendiquons lobbyistes citoyens. Donc on propose nous-mêmes, on rencontre des députés, on a amené des députés sur des fermes agroécologiques l'été dernier, et là on a proposé une pétition avec 10 propositions de loi qui, selon nous et selon pas mal de gens, puisqu'elle a déjà été relayée on a plus de 60 000 signatures, pourrait vraiment révolutionner l'agriculture et l'emmener dans le bon sens et faire bénéficier à tous les territoires et à tous les citoyens des bienfaits de l'agriculture, donc c'est-à-dire ce que la nature peut nous apporter.
Pascal Derme et Maxime de Rostelan. Alors, à ce stade de l'émission, on arrive quasiment au terme de cette partie. On va vous demander la phrase, bien évidemment, qui fait ce que vous êtes, qui en tout cas symbolise et représente ce que vous faites au quotidien. Et en sachant que, on l'a compris, je ne sais pas si on peut dire que ça reste un combat. En tout cas, il y a cette quête de sens à la clé. Pascal Derme.
Alors moi, ma phrase, c'est une phrase de l'anthropologue Margaret Mead des années 50. Qui est devenue féministe sur le tard, un peu comme moi, mais qui disait « Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose que l'on n'a jamais fait. » Donc c'est l'éloge de ces minorités actives dont on a parlé tout à l'heure.
Maxime de Rostelan.
Moi, c'est une phrase qui est un petit peu dans la même veine. C'est une phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. »
Eh bien, beaucoup de réflexions, en tout cas, pour nos auditeurs, avec vos phrases. Merci à tous les deux, Maxime de Rostelan. Le site, bien sûr, de France Culture abritera toutes les informations qui vous concernent. Pascal Derme, je rappelle le titre de vos livres. Ils l'ont fait, ça marche, comment l'écologie change déjà la France. Livre paru aux éditions Les Petits Matins. Et puis, je signale aussi Vivre ensemble autrement. Livre avec Patrick Vlasic, paru chez Ulmer. Et on poursuit notre tour des initiatives citoyennes et solidaires avec les Échos de la Terre, en partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde. Et savez-vous d'ailleurs que les singes pourraient disparaître de la planète d'ici 25 à 50 ans? C'est ce que vous pourrez lire dans l'article d'Audrey Garic à retrouver sur lemonde.fr. Audrey Garic qui s'appuie sur une étude publiée dans Science Advances, publiée mercredi dernier, et qui explique pourquoi 31 primatologues internationaux dressent un tableau alarmant. Y a-t-il espoir de ne pas vivre ce drame? Réponse sur le site du journal Le Monde, page Planète Science. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, de revenir sur cette question en profondeur très prochainement.
Dès aujourd'hui, en plus d'annoncer la neige ou le beau temps, certains présentateurs météo prodigueront dans leur bulletin des conseils d'économie d'électricité, ce qui enthousiasme Nathalie Rioux de France 2.
C'est un conseil par jour, et pendant une période sensible, comme on dit, puisque le réseau électrique est tendu, pendant cette période-là, on adapte nos gestes et des messages qui sont donc en cohérence avec la vague de froid.
Parmi les 6 conseils adaptés à la vague de froid, il y a aussi limiter l'usage des imprimantes, ne pas laisser la prise de son portable branchée quand on ne le recharge pas. L'idée est de conseiller sans passer pour des donneurs de leçons. Mais Ségolène Royal voit surtout l'impact des présentateurs météo sur leurs 16 millions de téléspectateurs quotidiens, toutes chaînes confondues. Un bon moyen pour mobiliser les citoyens.
Parce que les gens qui regardent la météo, ils s'intéressent au temps, ils s'intéressent à la planète. Tout le monde peut faire quelque chose. Donc c'est l'occasion de construire une société du zéro gaspillage, même quand il n'y a pas de vague de froid. Il faut que les Français sachent que, par exemple, s'ils renoncent à utiliser leur machine à laver entre 17h et 20h, c'est l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire.
Les échos de la Terre avec en toile de fond ces annonces faites et ces conseils donnés en tout début de semaine pour économiser notre électricité et éviter un blackout. Bonjour Fabrice Boissier.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et je précise que nous avions sollicité EDF pour bénéficier de l'expertise de quelqu'un de cette entreprise et visiblement EDF n'a pas pu répondre à notre demande. Donc Fabrice Boissier, vous avez la parole pour tout ce temps des échos de la Terre. On entendait dans ce reportage parler de cette société du zéro gaspillage. On en est encore loin quand même.
Oui, c'est certain, mais c'est sans doute la direction qu'il faut qu'on prenne. La question des ressources, elle a été évoquée tout à l'heure, elle est prégnante aujourd'hui. On sait qu'on va dans le mur et donc il faut qu'on change de manière de faire. Et je crois que la vague de froid qu'on vient de vivre nous a mis un peu en alerte, a pu réveiller les consciences. On a vu que à utiliser de l'électricité, c'est pas aussi simple que allumer la lumière en entrant dans une pièce, parce que derrière, il y a tout un système qui aujourd'hui fonctionne sur des installations centralisées, qui nécessitent du combustible pour fonctionner, combustible nucléaire, combustible fossile, et que ça, ça a ses limites. Alors, il faut qu'on aille vers un autre système, et c'est peut-être l'occasion, là, avec cette vague de froid, de se reposer la question, nous, au quotidien, que font nos gestes? Comment utilisons-nous l'électricité? Est-ce qu'on peut changer?
Oui, parce que c'est vrai, on a tendance à attendre ces vagues de froid pour entendre à nouveau ces annonces et puis sentir qu'il y a quand même une inquiétude hein, au plus haut niveau de ce fameux blackout. Donc, d'où des messages d'incitation coordonnés entre les acteurs du secteur, hein, EDF, RTE, l'ADEME. Finalement, ça pose quand même la question de la capacité française aussi en matière d'électricité. Est-ce que l'insuffisance est inquiétante? C'est le problème d'un pays hautement thermosensible, hein, dépendance à l'heure de choix de transition énergétique en Europe, c'est vrai que ça a de quoi interpeller les Français aujourd'hui quand même.
Alors, il est vrai qu'il faut se poser des questions, il ne faut pas non plus dramatiser. Bon, il n'y a pas de blackout là, cette année, malgré une vague de froid importante et une conjoncture défavorable, puisqu'on avait 6 réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Mais c'est vrai, comme vous le disiez, qu'on a un système électrique qui fait que nous sommes très thermosensibles. Ça veut dire quoi? Qu'on perd 1 degré de température, les gens doivent plus se chauffer, et en France, un tiers des chauffages des maisons sont au chauffage électrique. C'est beaucoup plus que partout ailleurs en Europe. Du coup, à chaque fois qu'on perd un degré, il faut mettre deux réacteurs, l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires en route, ou, autre chiffre, 1000 éoliennes, ou l'équivalent de la consommation d'une agglomération comme Marseille. Donc c'est énorme. On est très sensible à des grandes vagues de froid. Notre système est quand même bien robuste. RTE, qui est chargé de gérer le réseau d'électricité, assure avec des prévisions l'équilibre de l'offre et la demande, mais on est sous tension. Et donc, c'est peut-être le moment de voir quelles sont les opportunités de changement. Alors, ces opportunités, on a déjà commencé à les mettre en œuvre. On est rentré dans la transition, à petits pas, on accélère, mais il faut aller encore plus vite. Quelques exemples. On a vu que le pic d'électricité cette année était plus faible que celui de 2012, où on a aussi une vague de froid. Alors, je ne vais pas comparer exactement les conditions météo, mais c'est vrai que petit à petit, les travaux d'économie d'énergie qui sont engagés, je pense notamment aux travaux d'isolation des maisons, commencent à porter leurs fruits. Et donc, on voit que la consommation électrique française, elle arrive à un plateau, elle n'augmente plus. Maintenant, il faut la faire descendre, mais on est déjà à un plateau. Deuxième élément, au plus fort de la vague de froid cette semaine, il y avait en permanence l'équivalent de 4, 5 réacteurs nucléaires d'éoliennes qui fournissaient de l'énergie. À midi, on avait l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires qui fournissaient de l'électricité solaire. Et donc, les énergies renouvelables commencent à s'installer dans le paysage.
D'accord, pas suffisamment en tout cas, mais on commence à en sentir les effets. Et puis, il faut rappeler aussi pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien pourquoi on est dans cette situation, Fabrice Boissier, on ne sait pas stocker l'électricité aussi.
Effectivement, l'électricité, c'est quand même une énergie fantastique parce qu'elle peut servir à tout. Elle a un défaut, c'est qu'elle est très compliquée à stocker. Donc, il faut à tout instant assurer qu'on produit autant d'électricité qu'on en consomme. Mais si on rentre dans cette logique-là, et peut-être qu'on remonte un peu à la notion d'énergie et des énergies renouvelables, c'est bien ça les énergies renouvelables, c'est ne jamais consommer plus d'énergie que ce qui est disponible. Nous avons un biais un peu depuis un siècle, c'est-à-dire que nous avons un énorme stock d'énergie sous nos pieds qui sont dans les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, et qu'on a pris l'habitude de puiser dedans. Bon ben, on est en train de puiser un peu trop vite. D'une part, les ressources s'épuisent. D'autre part, on s'aperçoit que ça a un impact sur le changement climatique avec les émissions de dioxyde de carbone. Donc ce système-là, il est obsolète. Il faut qu'on se remette dans un système de flux d'énergie, non pas de stock d'énergie. Donc, à tout instant, être capable de produire ce qu'on consomme, ça paraît un principe de bon sens. Il faudra peut-être qu'on réussisse à le réintégrer dans notre système énergétique.
Alors, on parle souvent de l'éolien, du solaire. On parle rarement de la géothermie en France. Pourquoi ?
La géothermie est une énergie renouvelable qui a de nombreux atouts. Elle est disponible 24 heures sur 24. Ça, c'est un gros avantage. Par contre, elle dépend aussi de la géologie. Et elle a peut-être un défaut pour elle, mais qui est quand même qui n'en est pas un, en fait, c'est que elle produit de la chaleur à 80, 100, 150 degrés suivant les lieux. On parle beaucoup d'électricité, mais en fait, vous savez que l'électricité, c'est pas la majeure partie de l'énergie qu'on consomme. Les premiers besoins d'énergie, c'est la chaleur. Et donc, la géothermie est très adaptée pour produire de la chaleur qu'on a besoin. Et dans le bassin parisien, on ne le sait pas, mais il y a près de 150 000 logements qui sont chauffés grâce à la géothermie. On fait des forages, il y a des réseaux de chaleur qui alimentent ensuite des quartiers entiers. Et donc, on a une énergie disponible en permanence, pas chère, pas du tout soumise aux aléas du prix du pétrole. Et donc, c'est une énergie qui a un potentiel formidable aussi. Ce qu'on voit, nous, à l'ADEME, quand on travaille sur ces énergies renouvelables, c'est que, de toute manière, on ne pourra pas s'appuyer sur une énergie. Il n'y a pas une énergie clé, il faudra jouer du mix énergétique.
Un cocktail.
Pourquoi ? Parce que les énergies ne sont pas disponibles toujours en même temps. L'éolien, le solaire se complètent bien parce qu'on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes heures de production ou les mêmes jours de production. La géothermie apporte de la chaleur, l'éolien et le solaire apportent de l'électricité. Il faut aussi penser au carburant, il va falloir qu'on change nos modes de transport qui sont quand même beaucoup basés sur le pétrole. Et donc là, les bioénergies peuvent servir à la fois à la chaleur, à l'électricité ou à faire des biocarburants. Donc on voit qu'on a tout un panel de technologies, de ressources qu'il va falloir qu'on utilise au mieux. Le progrès technique va sans doute nous aider. Hein. L'ADEME finance des innovations justement pour trouver des nouveaux modèles pour mieux fabriquer, utiliser l'énergie. Mais le principe, c'est bien de s'appuyer sur toutes les énergies renouvelables.
Alors la géothermie, juste pour le signaler, pour ceux qui ne sauraient pas, sert d'ailleurs à chauffer la maison de la radio. Alors que pèsent nos gestes éco-citoyens concrètement, Fabrice Boissier ? Donc il y a les gestes évidents et ceux qu'on oublie, qu'on n'imagine même pas faire. Est-ce qu'on peut là éclairer un petit peu les uns les autres ?
On a parlé un peu de la production d'énergie, mais souvenons-nous que l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, se reposer la question « quand est-ce que je consomme de l'énergie ?», c'est peut-être un mouvement qu'il faut qu'on fasse, qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que l'énergie coûte très peu cher, il faut le reconnaître, même si les Français trouvent que ça coûte cher en facture à la fin de l'année, au quotidien, on se dit « si j'éteins la lumière, je vais économiser quoi ? Quelques centimes ?» Et donc, il faut peut-être changer un peu notre manière de faire, se dire « mais au fond, quel confort supplémentaire ça m'apporte d'appuyer sur ce bouton qui va allumer un appareil électrique ?» Et on s'aperçoit que très souvent, la réponse, elle est « ben, là, ça m'apporte rien ». Par exemple, si je laisse la lumière allumée dans une pièce où je ne suis pas, ça ne met d'aucun confort. Si je laisse le chauffage à 19 degrés dans ma chambre le matin et que je rentre le soir à 20 heures, il a chauffé à 19 degrés pendant une journée, il a servi à personne. Et donc, on a des tas de situations comme ça. L'exemple des appareils en veille aussi. Tous les appareils...
Les chargeurs de téléphone portable et autres.
Les chargeurs qu'on laisse brancher... Quel service apporte-t-il ? Aucun, quand on ne s'en sert pas, et pourtant, il consomme de l'énergie.
Alors, c'est toute la question, Fabrice Boissier, aussi, de cette société moderne, high-tech, qui nous envahit par les nouveaux médias, les technologies dernier cri. Est-ce que là, il n'y a pas aussi le rôle des concepteurs d'objets de demain ? Quelque part, ils sont un peu responsables aussi de ce côté énergivore.
Les concepteurs, effectivement, sont en partie responsables de ce qu'on aime appeler l'effet rebond, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on va dire, ah bah tiens, il y a l'énergie disponible, on va la mettre en œuvre. Mais je crois qu'il ne faut pas trop être manichéen et mettre d'un côté les mauvais producteurs et d'un autre côté les gentils consommateurs. Nous sommes tous responsables de la manière
dont nous... Oui, c'est dans ce sens-là, je disais, effectivement, de sensibiliser tout le monde.
De la manière dont nous consommons, dont nous achetons, nous pouvons choisir les produits que nous voulons et puis nous pouvons ensuite en avoir un usage raisonné.
Tout le monde, ça veut dire non seulement les citoyens chez eux en éteignant les pièces, etc., mais c'est aussi les grands groupes, les industriels, les bureaux qui restent allumés toute la nuit. Enfin, quand on regarde les villes, c'est flamboyant de lumière. Et là, ça interpelle quand même aussi.
Ça interpelle, mais l'interpellation est aussi un moteur de changement. On voit que les acteurs se mettent en marche aujourd'hui. Il y a des entreprises qui bougent, il y a des territoires qui bougent. Et donc, allons sur le terrain et on voit qu'il y a des choses qui changent. On l'a vu à la COP21, à la COP22, les États ont fait des avancées dans leurs accords, mais ceux qui ont fait changer les choses, c'était qui ? C'était les collectivités, les entreprises et les ONG. Donc il y a un formidable mouvement qui est en marche, des expériences qui se font, il faut les partager, il faut recueillir les bonnes pratiques. Et puis je crois que tout un chacun, on a envie de changer. C'est quoi nos motivations ? Mais c'est le fait de voir que ce qu'on fait, d'une part, va nous apporter plus de confort, parce que si on va faire des économies d'énergie, on va faire aussi des économies sur la facture, on se sentira mieux à la fin de l'année. Et puis, on a envie de se sentir utile. savoir que on a contribué à ce que l'équilibre électrique ne soit pas mis en danger là pendant le pic de froid. Moi, je l'ai entendu chez beaucoup de gens, j'ai rencontré qui me disaient j'ai fait attention, j'ai bien baissé le chauffage chez moi ou j'ai fait tourner ma machine pendant la nuit et pas pendant le pic. C'est une satisfaction personnelle pour tout le monde.
Alors, faire tourner la machine pendant la nuit et pas dans la journée, c'est pas toujours facile pour ceux qui vivent en appartement, parce qu'il y avait certainement en pleine nuit les machines qui réveillent le voisin du dessus ou du dessous, c'est déjà arrivé quand même. C'est pas toujours, en tout cas, ces conseils ne sont pas toujours évidents, opérationnels dans la vie de chacun.
Alors, c'est très difficile de faire des conseils qui soient applicables par tout le monde. On a tous des situations particulières.
Et parce que ça fait souvent réagir les auditeurs.
On donne l'exemple de la nuit, mais on peut aussi la faire tourner à 14h, au moment où il y a un creux de consommation aussi.
Il y a d'autres créneaux.
Mais ce qui est important, c'est de se dire que chacun peut vivre la transition dans ses conditions de vie et qu'on ne doit pas tous faire les mêmes gestes. On ne veut pas une société où tout le monde doit faire la même chose au même moment.
Mais les intégrer au quotidien comme un réflexe.
Il faut intégrer comme un réflexe et intégrer les réflexes qui nous sont profitables ou qui ne nous coûtent pas trop. Il y a des gens qui ont besoin, je sais pas, je prends l'exemple du transport, des gens qui ont absolument besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, on va pas leur dire arrêtez de prendre votre voiture. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément besoin. Ceux-là, ils peuvent faire l'effort.
Des gestes citoyens. Dans cette aussi transition énergétique à engager et à partager, il y a la rénovation. Donc ça veut dire engager ou les uns et les autres, si possible, à améliorer ou leur habitat ou les bureaux, etc. Donc passer dans cette rénovation. Cette rénovation, elle n'est pas toujours non plus faisable pour des foyers ou des foyers qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour participer à cette transition énergétique ?
Effectivement, si on regarde la facture énergétique des Français, le chauffage, c'est une part énorme. Le problème, c'est que les maisons ou les appartements qu'on habite, ils ont été construits il y a de nombreuses années, souvent, et dans un moment où on n'avait pas les mêmes problématiques énergétiques, on n'avait pas forcément non plus les mêmes technologies. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé, on sait faire des isolations par l'extérieur, par exemple, qui permettent de gagner en confort et diminuer fortement de 20%, 30% les dépenses de chauffage. On peut aussi isoler les combles, on peut aussi changer le système de chauffage. On peut mettre des énergies renouvelables comme se chauffer au bois. Donc tout ça, c'est un panel qui est aujourd'hui disponible. Mais ce sont des coûts d'investissement importants. C'est un aspect, c'est vrai. Un autre aspect important, c'est que pour quelqu'un qui veut se dire, voilà, je veux changer mon système de chauffage, il ne sait pas par où commencer. C'est pas évident. Est-ce qu'il faut commencer par les murs ? Qui est-ce que je vais appeler ? Et donc là, il faut un accompagnement. Cet accompagnement, il est mis en place par l'État, avec notamment les espaces info-énergie animés par l'ADEME, avec un numéro, le 0808-800-700, numéro gratuit où vous aurez des conseils personnalisés. Et ça, ça permet aux gens de rentrer dans la démarche pour envisager un projet de rénovation. Bien sûr, ensuite, il faut regarder l'aspect financier. Et l'aspect financier, c'est des aides de l'État avec le crédit d'impôt qui est en place. Beaucoup de collectivités ont aussi mis en place des aides d'accompagnement pour alléger la facture. Et donc ça, les espaces info-énergie pourront vous renseigner. Et puis, il y a une composante qui est importante, c'est que aujourd'hui, on a quand même 6 millions de foyers qui sont en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont soit du mal à payer leur facture, soit qu'ils n'ont même plus la capacité de chauffer suffisamment. Donc pour ces gens-là, il y a aussi des dispositifs adaptés. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, apporte des aides beaucoup plus importantes, qui peuvent aller jusqu'à 50% du projet, jusqu'à 10 000 euros. Alors si on ajoute après le crédit d'impôt, ça veut dire que la majeure partie du projet peut être prise en charge par la société. Et donc, ça peut accompagner des gens qui sont dans une situation vraiment très difficile sur une amélioration et de leur équilibre financier puisqu'ils auront moins d'argent à dépenser pour le chauffage et surtout une augmentation du confort. Et donc, on sait que c'est pour le bien-être de ces gens-là, c'est très important.
Donc, le cercle vertueux. Merci Fabrice Boissy. Alors, vous-même, juste, dernière question, en toute sincérité. Ce que vous faites, est-ce que vous oubliez encore de faire par manque de réflexe dans ces gestes éco-citoyens ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis un fan de l'isolation, donc j'ai fait isoler ma maison et je chasse les radiateurs et les lumières aux grandes dames de ma famille. Ils trouvent toujours qu'il fait trop froid chez moi, mais bon. Donc ça, c'est un peu le biais professionnel, on va dire. Je crois aussi que je suis assez vertueux sur les transports parce que je fais tous mes trajets à vélo dans Paris.
Est-ce que vous oubliez
La douche, c'est vrai que j'aime bien me savonner sous l'eau. Ça, c'est une chose. Et puis il doit y avoir quand même quelques appareils en veille chez moi, ça c'est certain.
Bon, il y a encore une petite marge de progression alors pour tout le monde finalement, y compris pour vous. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et les vos informations, bibliographies, les liens, la revue de Web Environnement, tout cela est à retrouver sur le site de l'émission francecultures.fr, rubrique de cause à effet, et sur le site internet du journal Le Monde. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger bien sûr, et nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEFE. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, c'est à la transition énergétique allemande que nous nous intéresserons. Ce pays qui a choisi de sortir du nucléaire, à quel prix? Et donc nous regarderons si ce modèle de transition est vertueux ou pas. Réponse la semaine prochaine. Restez avec nous dans un instant à 17h. C'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Rue des Écoles et Louise Touré. Bonne journée à tous.